Lundi 18 janvier, Conservatoire Régional de Musique, Place Carli. Déambulation entre les rangées d'une collection de pianos anciens, ouverte à l'occasion de la Semaine du Son. Marie-Brigitte Duvernois est présidente de l'association Boisselot et Fils, facteur de pianos de génie.
Nous avons fondé cette association avec Cathy Scotto, qui vient de nous quitter, qui était une figure de la musique de Marseille. Il a été repreneur des établissements Gébelin, et donc il a eu une grande activité dans le piano. Et il a notamment eu, dans ses débuts, des anciens ouvriers de la manufacture Boisselot. Moi, j'ai été apprentie chez lui et il m'a donné le virus Boisselot. Donc voilà, on remet un petit peu sur le devant de la scène un acteur de la vie marseillaise, autant au point de vue industriel qu'au point de vue culturel. Il a été un grand mécène aussi.
Et alors, en quelque sorte, il y a un sous-titre de l'association Boisselot et Fils, c'est « Facteur de piano de génie ». Alors, c'est un peu mystérieux pour les non-initiés. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ?
Bien sûr. Alors, « facteur de piano », ça vient du mot « factus », qui veut dire « faire »,« fait ». En fait, « factus », c'est un participe passé qui veut dire « c'est fait ». Donc, c'est celui qui fait quelque chose et qui fait un instrument de musique. Ce mot a été appliqué aux fabricants d'instruments de musique, spécialement. Donc, de génie, pourquoi ? Parce que les Boisselot sont des facteurs de piano qui se sont fait remarquer par des inventions, particulièrement une qui est toujours utilisée actuellement de nos jours, qui est la pédale tonale, une pédale qui est au centre de la lyre. Quand on voit un piano de concert, il y a trois pédales. Et donc cette pédale a pour effet de soutenir les sons qui sont joués, uniquement ceux qui sont joués avant qu'on appuie sur la pédale. Ce qui fait que ça a apporté une nouvelle coloration à la musique. Et cette invention qu'il a eue de sortie en 1844, il a déposé un brevet d'invention. Elle était tellement d'avant-garde qu'elle n'a pas tout de suite connu son succès. Et maintenant, bon, cette pédale tonale, elle est utilisée sur tous les pianos.
Cette pédale, elle est très utilisée.
Ah oui, 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 maintenant, elle est très utilisée dans la musique du XXe siècle, début du XXe. Hein, ça a été une redécouverte. Donc, pour cette chose-là, on va dire que Boisselot a été un génie. Et pour aussi plein d'autres petits points, parce que ces pianos étaient d'une qualité esthétique, sonore et visuelle particulière, qui fait qu'il a mis sa marque. Il a apporté dans la facture de piano qui était, un peu austère, la légèreté. Donc il a découpé des dentelles de piano, de bois, je veux dire, des dentelles de bois dans les pupitres, dans les devants de piano. Donc ça fait des pianos un petit peu ajourés, qui sont très agréables à regarder. Il a effilé la ligne des pieds. Il a fait des pieds tulipes, qui sont caractéristiques de sa fabrication. Donc toutes ces marques de fabrication ont fait qu'il a eu un style. Et ce style a séduit beaucoup de personnes et il a vendu beaucoup de pianos.
Alors là, donc, on est dans une salle assez magnifique, tout en bois, au conservatoire.
Cette salle fait à peu près 15 mètres de haut, je pense. Et elle doit faire 400 ou 500 mètres carrés. Et c'est une des anciennes salles des archives qui étaient ici au Palais des Beaux-Arts de Marseille. Elles ont été déplacées aux archives municipales. Et c'était un endroit où il y avait des rayonnages qui sont classés monuments historiques.
On fait un petit tour ?
Allez. On commence par le plus ancien, peut-être ? Alors, le piano carré le plus ancien, c'est celui-là. C'est un piano qui est de 1835 à peu près. Il a moins de notes que nos pianos actuels. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils avaient à peu près 6 octaves et quart. Maintenant, on a 7 octaves et demi. Et c'est un piano qui a la forme d'une table qu'on ouvre par un couvercle dessus qui bascule vers l'arrière. Et bon, je vais vous faire entendre des sons, mais ce sont vraiment des sons. Hein. C'est pas... C'est vraiment... Voilà. Il est désaccordé parce que c'est des pianos qui sont très anciens et qui ne tiennent plus très bien l'accord. Mais bon, on entend que... Voilà. On sent que le son n'est pas très, très volumineux ni agressif. C'est un son très doux. Alors c'est un marteau de feutre qui va frapper une corde en acier tendue sur une table d'harmonie.
Ça, c'est le fonctionnement voilà. général, quoi, sur c'est, tous les pianos. Même
le principe, c'est le même, à part que la manière dont est monté le marteau et le développement du mécanisme est complètement différent. Si vous voulez, c'est comme si on comparait un moteur de voiture ancienne avec deux pistons, par exemple, je ne m'y connais pas trop, avec maintenant les 16 soupapes en V, etc. La rapidité d'exécution n'est pas la même. C'est-à-dire que là, on appuie sur la touche, on a quand même une petite lenteur. Maintenant, quand vous appuyez sur une touche bien réglée d'un piano moderne, ça part tout de suite, puis vous avez tout de suite un son très fort. Voilà. Voilà un petit peu sur comment je peux résumer l'évolution. Donc ça, c'est un piano donc, de 1835. Après, on a un piano 1839 qui a un peu plus, une plus belle sonorité. C'est un demi-queue, il fait 2 mètres. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est le genre de piano qui a fait
C'est quoi un demi-queue ?
Alors, c'est un piano à queue. Je pense que là, piano à queue, tout le monde voit à peu près commencer. Et alors, demi, pourquoi ? Parce qu'il y a des tailles. Le piano à queue étant considéré comme le piano de concert à partir de 2,50 m de long, et la demi-queue, c'est 2 mètres. Et après, vous avez plus petit, quart de queue, ça peut être 1,70 m, 1,60 m. Voilà. Donc celui-là est un demi-queue avec des cordes en fer donc de 1839. Un son pianoforte, piano romantique, on va dire. On voit bien que ça, là, on a des pianos modernes, on pourra voir après la comparaison. Enfin, ensuite, là, nous avons un Boisselot de 1900. Ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on a l'habitude d'entendre, mais ça reste toujours dans les aigus, on va dire, la différence. On sent quand même qu'il y a une petite qualité de son qui est différente de ce qu'on peut entendre. Alors, si vous voulez, on va entendre un piano moderne, il faudra finir, qui n'est pas un Boisselot, puisque Boisselot, la fabrication s'est arrêtée à peu près en 1910-15. Après, ils ont continué, les ouvriers ont continué de fabriquer parce qu'ils étaient vraiment passionnés et qu'ils voulaient sauver leur métier. Ils ont fait une société qui s'appelait la Société Marseillaise de Piano, et ils faisaient des pianos qui s'appelaient Dieser. Il y a peut-être des personnes qui ont des pianos Dieser. En fait, c'est les successeurs de Boisselot, ça a duré une petite dizaine d'années. Après, il y a eu la guerre et tout a cessé. Donc, il n'y a plus de Boisselot moderne. Hein. Si vous trouvez un Boisselot moderne, c'est un faux. Voilà, et maintenant, piano moderne. Bon, alors après, est-ce que c'est mieux, moins bien ? C'est différent, voilà.
C'est un 2 mètres, il est comme le mien. Je ne sais pas dans quel état de jeu, mais je vais chercher à s'en séparer.
Alors, dans la semaine du son, l'idée a été de voir le piano sous forme de producteur de son. Et au cours de l'évolution de la facture, le son du piano est devenu de plus en plus puissant. Donc c'est un petit peu la tendance générale de la sonorité. Donc au départ, on a eu des pianos qui étaient très confidentiels, c'est-à-dire qu'ils sont des pianos structure en bois avec des marteaux très petits et des cordes peu tendues, ce qui faisait qu'un son plus doux, plus faible et plus boisé. Et après, comme il y a eu des demandes par rapport à la taille des salles, au récital, c'est-à-dire le piano qui n'était plus un instrument qui était inscrit dans un orchestre mais qui jouait seul, on a renforcé le volume pour atteindre les derniers rangs et pour donner plus de puissance. Donc le répertoire a évolué d'ailleurs avec cette puissance, donc on a mis des renforts métalliques, on a augmenté les surfaces, on a augmenté les tensions, on a augmenté la taille des marteaux et donc on a produit plus de puissance. Et maintenant on aboutit à des pianos de concert qui développent beaucoup de décibels. Voilà.
Et dans la couleur du son aussi, il y a des différences au fil de l'histoire ?
Bien sûr, bien sûr. Les pianos, donc les premiers pianos fortés ont un son plus boisé, plus mat, on va dire, moins brillant que maintenant. C'est indéniable, hein. On entend tout de suite la différence sur un piano. Ça, c'est la table d'harmonie. Donc voilà, on a sonné. On a fait des petits trous partout.
Ouais.
Voilà. Et si vous mettez de profil, là, voilà. Alors, c'est sûr que. Là, il y a une pièce. C'est fragile, hein, c'est ancien. Donc voilà, vous voyez de la coupe de profil de la mécanique. C'est joli, hein, c'est très joli une mécanique de piano. Donc au départ, c'était un challenge fait par Bartolomeo Cristofori, qui était luthier et qui était à la cour de Médicis à Florence et qui a fait un pari avec son mécène, le prince Médicis, qui lui a dit « essaye de trouver un clavecin qui sonnerait différemment ». Et il a installé des marteaux. Et il a fait un piano qui s'appelait Gravicembalo col piano e forte. Donc l'invention du piano date de 1698, on va dire 1700. Donc après, ça a été des laboratoires, des facteurs qui se sont penchés, comment faire sonner. Ils ont trouvé ça génial. Et surtout, le fait de pouvoir nuancer, ce que le clavecin ne pouvait pas faire. Et après que c'était transportable, c'est pour ça que ces pianos carrés existaient. C'est parce que c'était un petit orchestre chez soi. Et comme il n'y avait pas l'électricité, avec tout ce que ça amène maintenant, ça a eu un engouement, mais terrible. Donc, si vous voulez, c'était l'instrument roi. On a appelé très longtemps le piano l'instrument roi. Et ensuite, cette course à la puissance, ça a été après, comme je vous disais tout à l'heure, la taille des salles et la demande du pianiste devant son piano. Et après, les compositeurs comme Franz Liszt, par exemple, après Rachmaninov, des personnes comme ça qui ont fait sonner les pianos en prenant toute leur puissance. Bon, voilà. Donc, effectivement, le son, il a été... si vous voulez, tout le monde est acteur. Le compositeur qui demande plus, le facteur qui recherche et le public qui reçoit. Donc, tout ça, ça fait un ensemble qui a fait amener l'évolution. Et maintenant, c'est vrai que le piano... Bon, il y a eu deux, trois évolutions, deux, trois additions avec mais il y a eu très peu d'évolutions ces derniers temps. Et après, il y a eu le numérique est arrivé. Donc, il y a d'autres outils, d'autres instruments pour la composition, etc. Donc là, on est dans un autre domaine. C'est plus que le piano acoustique. En 2000, on s'est dit, on va faire une association pour faire connaître aux Marseillais, qui a un patrimoine, qu'il y a une richesse, qu'il y a eu un facteur de piano qui a quand même employé à peu près 150 ouvriers pendant une bonne vingtaine d'années dans la ville de Marseille, que ces pianos, il en reste quand même des témoins, qu'on voudrait les faire partager. Alors on en a sélectionné quand même quelques-uns qui soient esthétiquement agréables à voir, et puis ça fait partie de la chaîne de l'évolution de la facture. Et la cerise sur le gâteau serait qu'on arrive à monter un opéra de Xavier Boisselot lors d'un événement important, parce que d'après certains professeurs de piano ici, musiciens qui ont vu les partitions, qui ont pu les entendre, c'est un compositeur qui est très intéressant, qui c'est intéressant de redécouvrir. Donc là, on lance un grand appel à qui veut bien nous donner, nous aider, contribuer, nous donner des idées, des voix, des contacts pour réaliser ces projets.
Et ce soir, il y a un premier concert.
Voilà, ce soir, nous allons entrevoir la musique de Xavier Boisselot, le compositeur, qui est né en 1811 et mort en 1893. Et par des retranscriptions d'air de son opéra, justement, Ne touchez pas à la reine, et l'autre opéra, c'est Mosquita la sorcière, il y en a deux. Donc des airs qui ont été retranscrits par des pianistes pour jouer dans les salons, justement, à deux ou quatre mains, les airs d'opéra qui étaient très célèbres à l'époque. Il a quand même fait 100 représentations à son époque, hein. Donc il a eu un énorme succès. La pianiste est Nathalie Lanoé, qui est professeure au conservatoire et qui a bien voulu prêter son concours à cet événement.